Mais il est midi et demi sur France Culture et c'est l'heure d'accueillir Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Plusieurs explosions ont été entendues ce matin dans le centre de l'Iran.
Oui, forcément, tout le monde a désormais les yeux tournés vers Israël. S'agit-il là de la première attaque orchestrée par l'État hébreu en représailles aux tirs de drones et de missiles contre son territoire le week-end dernier? Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. Et puis, on s'interrogera avec notre invité aujourd'hui, Pierre Ramon, doctorant en sciences politiques à l'École normale supérieure, sur les risques ou non de voir le Moyen-Orient plongé dans une crise à grande échelle. La guerre, toujours et encore en Ukraine. Cette fois-ci, toute la nuit, l'armée du Kremlin a bombardé son voisin. On se rendra à Kharkiv, dans un quartier martyr de la deuxième ville du pays. À suivre également le lancement ce matin des élections générales en Inde, un scrutin à l'issue a priori sans surprise, puisque face à la machine de guerre du Premier ministre Narendra Modi, l'opposition a aujourd'hui toutes les peines du monde, on le verra, à exister. Enfin, dans la perspective des élections européennes, on tâchera d'y voir un peu plus clair sur les personnalités pressenties pour figurer ou non sur les listes de chaque formation. Israël aura donc résisté 5 petits jours avant de céder à l'esprit de vengeance et lancer a priori une attaque contre l'Iran. Du moins, la République islamique a-t-elle activé tôt ce matin sa défense aérienne dans plusieurs provinces après plusieurs informations rapportant de fortes explosions dans la province d'Isfahan dans le centre du pays. 3 explosions au total auraient été entendues près d'une base aérienne militaire. Alors comme à chaque fois, l'État hébreu n'a ni confirmé ni démenti l'information. Tout porte à croire malgré tout que cette opération constitue bien la première réponse donc de Tel Aviv à la colère des ayatollahs. Faut-il s'attendre à d'autres frappes possibles? Le conflit ouvert entre les deux puissances régionales ennemies risque-t-il à présent d'entraîner le Moyen-Orient dans une crise encore plus profonde? Les questions sont encore nombreuses et les réponses difficiles à trouver, d'autant que la machine de propagande tourne désormais à plein régime d'un côté comme de l'autre. Quand les uns minimisent, les autres refusent d'endosser la responsabilité. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Quelle est ce matin, Thibault, la version officielle côté israélien?
Silence radio, aucune déclaration au plus haut niveau en tout cas. Quelques seconds couteaux se sont exprimés, comme le turbulent et suprémaciste ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir qui parle d'une réponse faible, mais rien de significatif. Israël ne revendique donc rien dans la lignée des dizaines d'opérations d'assassinats de scientifiques iraniens ou de cyberattaques contre le programme nucléaire de Téhéran depuis des années. Il laisse ainsi la porte ouverte au déni et à l'ambiguïté stratégique et permettent à l'Iran de ne pas appeler à une nouvelle riposte si, bien entendu, Téhéran veut calmer le jeu. C'est donc une réponse mesurée et un double message envoyé d'abord à l'ennemi. Israël peut frapper vite et fort le territoire iranien et sans préavis, mais aussi à destination de l'opinion publique. Depuis le 7 octobre, les Israéliens ont perdu confiance dans la capacité de l'État à assurer leur sécurité. En répliquant, Israël continue sa stratégie dissuasive, œil pour œil, dent pour dent, sans pour autant plongé dans un conflit dont l'issue serait incertaine.
Merci Thibault Lefèvre à Jérusalem. Et pour continuer d'évoquer l'attaque de cette nuit, invité à présent de la rédaction, Pierre Ramon, doctorant en sciences politiques à l'École normale supérieure et membre de la revue Grand Continent. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors pour l'heure, on l'a dit, beaucoup de questions demeurent, à commencer par la théâtralisation de ce face-à-face. Les dirigeants israéliens et iraniens n'ont pas véritablement réagi à cette attaque. D'un côté comme de l'autre, on a le sentiment que chacun se contente de montrer ses muscles en sachant qu'il n'y aura pas de dégâts majeurs. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de jeu de dupe?
Alors, en effet, dès ce matin, les agences de presse iraniennes comme l'agence Tasmim, par exemple, ont publié des reportages insistant sur la normalité de la situation à Isfahan, et les officiels iraniens ont minimisé à la fois l'attaque et ses conséquences dans une perspective qu'on pourrait appeler désescalatoire. On a même vu des responsables appeler cette frappe une frappe imaginaire, qui est une manière aussi de ne pas avoir à s'obliger à riposter par la suite. J'aimerais dire que peut-être l'attaque de ce matin, c'est une attaque qu'on pourrait dire sous le seuil, dans la mesure où elle est semblable à d'autres attaques qui ont pu être menées ces dernières années par Israël à l'encontre du territoire iranien, en janvier 2023 près d'Isfahan également, en mai 2022 contre la base militaire de Parchin, en février 2022 enfin contre l'usine de fabrication de drones près de Kermanshah. Donc à ce stade, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de dégâts avérés et les deux parties sont dans un discours plutôt désescalatoire.
Après les événements d'aujourd'hui, pour autant, quels sont les principaux facteurs de risque dans la région? Est-ce que, par exemple, ces événements pourraient pousser le Hezbollah libanais à s'inviter dans ce jeu de menaces ?
Alors, ce qui est très dangereux actuellement, c'est qu'on est dans une situation générale de redéfinition des lignes rouges, de part et d'autre. Je m'explique, nous avons publié avec la revue Le Grand Continent ce week-end un texte de Mohamed Hossein Borrelli, qui est le chef d'état-major des forces armées iraniennes depuis 2016, et à ce titre le plus haut gradé militaire du pays, qui explique, je le cite, qu'une nouvelle équation a été établie avec l'opération de ce week-end. Si, je cite, « Si le régime sioniste attaque, il sera contre-attaqué directement depuis l'Iran ». Et or, en fait, une tentative de redéfinition des lignes rouges est par définition extrêmement dangereuse, puisque si jamais ces nouvelles lignes rouges ne sont pas acceptées par le rival ou par l'ennemi stratégique, on bascule dans un monde cassé dans lequel la guerre peut s'étendre de façon indéfinie, puisqu'il n'y a plus de lignes rouges reconnues de part et d'autre. Vous mentionniez le Hezbollah, et c'est justement un risque tout à fait important, puisque je rappelle que cette semaine, le 16 avril, le Hezbollah dit que 3 de ses combattants ont été tués lors d'un raid israélien. L'escalade pourrait donc peut-être ne pas venir de ce jeu de riposte mutuel entre l'Iran et Israël, mais peut-être par l'implication du Hezbollah et du conflit qui continue, des tensions qui continuent entre Israël et Hezbollah.
Pourquoi l'attaque de cette nuit a-t-elle visé la province d'Ispahan ? Est-ce que la présence sur place des sites nucléaires connus de la République islamique et en particulier l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz y est pour quelque chose ?
Alors, c'est possible. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a confirmé ce matin que l'installation de Natanz n'avait pas été touchée par ces attaques. Ce qu'on peut se demander également, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une attaque de plus grande ampleur contre le programme nucléaire iranien, comme cela avait pu être envisagé. Il se trouve que nous venons de publier avec Le Grand Continent à l'instant une étude du spécialiste John Alan Gray qui explique que, en fait, une telle attaque aurait posé, qui aurait impliqué notamment des bombardiers F-16 et F-15 RAM, et des bombes de type GBU-28, auraient pu viser les sites de Natanz et de Fordo, et auraient pu réussir, mais auraient posé des difficultés, notamment en termes de ravitaillement, car les défenses antiaériennes iraniennes auraient pu harceler les bombardiers, les conduire à des mouvements très consommateurs en carburant qui auraient pu mettre en péril l'opération, et peut-être éventuellement conduire, ce qui aurait été une catastrophe pour Israël, à une capture d'un pilote israélien, par exemple.
Une dernière question, Pierre Ramon. Jusqu'à quel point l'Iran représente une menace existentielle pour Israël ? En clair, à quelle échéance peut-on craindre qu'il sera techniquement possible à Téhéran d'équiper ses drones, ses missiles de charge nucléaire opérationnelle ?
Alors, de ce point de vue-là, il y a eu une déclaration récemment assez étonnante d'un des commandants des gardiens de la Révolution en charge des sites nucléaires qui disait qu'en cas d'attaque d'Israël, il pourrait reconsidérer sa doctrine nucléaire. Ce qui est nouveau dans la bouche d'un dirigeant militaire iranien de parler de doctrine nucléaire, puisque l'Iran ne dispose pas à ce stade d'armes nucléaires. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a 3 choses à retenir. Premièrement, l'Iran à ce stade est un État du seuil. C'est-à-dire, c'était pas un État qui dispose d'armes nucléaires, mais un État qui pourrait, en une durée difficile à déterminer, mais environ 1 an, s'équiper d'armes nucléaires. Et en fait, le risque d'attaque, enfin un des principaux risques de militarisation du programme nucléaire iranien serait justement des attaques de grande ampleur d'Israël contre son sol qui pourrait justifier par la suite la militarisation du programme.
Mais les deux derniers points rapidement.
C'était les deux principaux points que je voulais.
Merci. Pierre Ramon, doctorant en sciences politiques, donc à l'École normale supérieure, membre de la revue Grand Continent, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Alors c'est dans ce contexte que Washington a mis fin hier au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Sans surprise, les États-Unis ont mis leur veto à une revendication honnie par leur allié israélien. L'administration américaine martèle qu'un État palestinien de plein droit ne peut naître que de négociations avec l'État hébreu. Enfin, parallèlement, l'armée israélienne poursuit ses frappes meurtrières sur l'enclave assiégée et dévastée de Gaza, en proie à un véritable enfer humanitaire, selon les propres mots du chef des Nations Unies, Antonio Guterres.
Le plus grand exercice démocratique au monde a débuté ce matin.
Oui, en Inde, 970 millions d'électeurs, soit plus de 10% de la population mondiale, ont commencé à voter dans le cadre d'élections générales où le premier ministre nationaliste Narendra Modi, donné favori, semble presque assuré de l'emporter. Alors, compte tenu du défi logistique que représente l'organisation d'un tel scrutin, les résultats ne seront pas connus avant le 4 juin. Mais ces 6 semaines, donc, ne devraient rien changer ou presque quant à l'issue finale, même si le principal parti d'opposition a certes réussi cette année à convaincre une trentaine de formations politiques de s'allier. Cette union aura bien du mal à stopper la course vers un troisième mandat consécutif de celui qui, depuis 10 ans déjà, a sapé les piliers de l'équilibre des pouvoirs. Reportage à New Delhi de notre envoyé spécial Valérie Crovin.
Entravés, affaiblis, mais toujours là, les dirigeants du Congrès continuent de croire qu'ils peuvent encore inverser la tendance malgré les obstacles qui se sont accumulés ces derniers mois. Pawan Khera est le porte-parole du parti du Congrès.
Il y a une absence claire et visible de règles du jeu équitables. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nos comptes ont été gelés. Aujourd'hui encore, une grande partie de notre argent est toujours saisie par le parti au pouvoir. De plus, les médias traditionnels ne nous offrent pas le type de couverture que nous devrions accordé à tous les partis.
Le parti au pouvoir, le BJP, a été accusé d'instrumentaliser la justice pour empêcher les membres de l'opposition de se présenter. Plusieurs sont d'ailleurs actuellement derrière les barreaux.
Dans 95% des cas, les enquêtes des agences telles que le Bureau central des investigations étaient dirigées contre l'opposition. 95%. Elles ne portent aucune plainte contre ceux qui sont de leur côté.
À ceux qui voient en Narendra Modi l'homme providentiel de l'Inde, Pawan Khera rétorque.
Deux jeunes se suicident chaque heure dans ce pays. Deux agriculteurs se suicident chaque heure dans ce pays. Il y a 4 viols par heure dans ce pays. C'est contre cela que nous luttons.
Ces minutes sont comptées. Le porte-parole du Congrès est attendu pour un meeting dans le Kerala, dans le sud de l'Inde.
Reportage à New Delhi, signé Valérie Crova et Fabien Gosset. La droite nationaliste sera-t-elle faiseuse de roi en Croatie? Les conservateurs sortis vainqueurs des élections, mais sans majorité, pourraient choisir comme allié le mouvement patriotique anti-migrant, arrivé à la 3e place et qui prône notamment l'armée aux frontières. Les négociations risquent toutefois d'être longues.
L'Ukraine affirme ce matin avoir abattu un bombardier stratégique russe, une première depuis le début de ce conflit.
L'appareil, un Tupolev supersonique capable de tirer des missiles à longue portée, s'est écrasé dans une région du sud de la Russie, à des centaines de kilomètres du territoire contrôlé par l'Ukraine, et ce alors qu'il rentrait d'une mission de combat. Toute la nuit, l'armée de l'envahisseur a tiré pas moins de 36 missiles et drones explosifs qui ont fait au moins 8 morts, dont 2 enfants et une vingtaine de blessés. Alors, depuis plus de 2 ans maintenant que l'armée du Kremlin bombarde quasi quotidiennement les infrastructures civiles et énergétiques de son voisin pour l'étouffer à petit feu, Kiev dit à présent souffrir d'un manque cruel de munitions pour repousser les attaques de Moscou. Depuis quelque temps, l'aide occidentale se réduit drastiquement ou arrive trop tard. Et c'est ainsi, par exemple, qu'à Kharkiv, la 2e ville du pays, vivre est devenu un défi quotidien. Nos envoyés spéciaux Agathe Mahuet, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov se sont rendus dans l'une des zones les plus détruites, le quartier Martin de Saltivka. Reportage.
Il y a un certain décalage entre le petit barbecue que prépare Roller au bord de l'étang et dans son dos, l'immeuble de 8 étages complètement soufflé, frappé par un missile russe il y a 3 mois. La façade s'est effondrée. On aperçoit au premier les restes d'une cuisine et au deuxième, les livres encore rangés dans la bibliothèque. Oler habite juste en face. Il a 21 ans et l'air infiniment triste.
J'ai vécu dans ce quartier toute ma vie. Et maintenant que tout ça a disparu, ça me donne le sentiment d'un grand vide. Certains de mes amis sont au front, d'autres sont partis vivre ailleurs et d'autres encore sont morts.
Ce soir, Oler réunit ceux qui restent. Il place ses brochettes sur la grille. Une petite fête sans trop y croire.
Toutes les nuits, ici, on te rappelle que l'agresseur est à 30 km de chez toi et qu'il veut te tuer. Alors, au quotidien, la mort te poursuit. Tu essaies de t'en défaire, mais tu n'y arrives pas.
Saltivka est le quartier résidentiel de Kharkiv le plus proche de la Russie, le plus ciblé aussi. 400 000 habitants avant la guerre, on les cherche aujourd'hui. Sergueï aussi, avec sa fille de 6 ans, seule dans le bac à sable.
Chaque jour, il y a des bombardements. Il n'y a pas d'enfants ici. Vous voyez, tout est vide. C'est difficile quand tu te réveilles le matin et que tu vois tous ces immeubles détruits autour de toi. C'est vraiment pesant.
Ceux qui restent n'ont souvent pas le choix. Alina et Volodymyr ont acheté au 16e et dernier étage, dans un autre immeuble. Leur petit garçon, Vitali, tout blond, n'a pas encore 3 ans.
Il n'y a pas d'électricité, donc pas d'ascenseur. Le petit grimpe l'escalier tout seul, jusqu'au 10e étage. C'est trop difficile de le porter.
Être responsable d'un enfant dans ces conditions, c'est ça le plus dur, ajoutent les deux parents. Mais Alina ne veut pas se soumettre.
On a déjà enduré assez de choses comme ça ici pour renoncer à nos envies. Alors on vit notre vie.
Et si un deuxième enfant arrive, c'est comme ça, sourit Alina.
Et peut-être un troisième enfant et un autre appartement.
Un reportage à Kharkiv d'Agathe Mahuet et Jérémy Tuil. Après une bataille juridique longue de 7 années, plusieurs membres d'équipage de navires de sauvetage de migrants accusés par l'Italie de collusion avec les trafiquants d'êtres humains en Méditerranée espèrent enfin obtenir justice. Aujourd'hui, les prévenus risquent jusqu'à 20 ans de prison. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait part hier de son énorme inquiétude face à la propagation croissante de la souche H5N1 de la grippe aviaire. Et pour cause, non seulement la tendance à la propagation est aujourd'hui de plus en plus commune, mais le virus ne s'attaquerait plus seulement aux oiseaux, sauvages ou domestiques. Les mammifères font désormais partie des cibles. Lions de mer, renards, bovins et même l'homme. Depuis 2003, 889 cas humains ont été enregistrés dans le monde avec un taux de décès important, plus de 50%. Alors ce n'est pas ce pourcentage en réalité qui inquiète le plus aujourd'hui l'OMS, mais plus particulièrement deux cas enregistrés aux États-Unis au début du mois. L'infection de deux éleveurs de vaches contaminés par leurs bovins. Pourquoi ce signal est-il important à surveiller? Célia Guetti a posé la question à Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon.
Cela montre que ce virus est présent en quantité assez importante chez ces animaux, chez ces vaches contaminées, pour permettre une transmission à l'homme. Et donc la répétition de ces événements, plus la dissémination de ce virus dans un réservoir qui est finalement de plus en plus important, est un signal d'alerte. On a l'impression qu'il y a une tendance inexorable vers un risque qui devient de plus en plus important. Il faut rester malgré tout relativement prudent, parce que même si ce virus diffuse de façon large, en fait aujourd'hui il n'a jamais été capable de faire ce qu'on appelle une chaîne de transmission interhumaine. Et la contamination se fait par contact. Et tant que ce virus reste à transmission de contact et pas par voie respiratoire, le risque pandémique a très peu de chances de survenir.
Alain Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon, il répondait à Célia Guetti. À moins de 8 semaines des élections européennes, débats et meetings se multiplient depuis lundi. Nous sommes par ailleurs contraints de décompter scrupuleusement les temps de parole jusqu'à la plus petite liste. Bref, la campagne est bel et bien lancée. Toutes les têtes de liste sont désormais connues. En revanche, c'est vrai qu'on n'en connaît pas beaucoup plus s'agissant de leurs colistiers. En théorie, les uns et les autres ont jusqu'au 6 mai pour faire durer le suspense, puisque c'est à ce moment-là que les listes devront être officiellement déposées. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors la campagne vient tout juste de commencer, c'est vrai. L'identité de celles et ceux qui figureront en début de liste, en position donc éligible, reste encore relativement mystérieuse. En revanche, Rosalie, c'est nettement moins le cas s'agissant des noms en fin de liste où l'on retrouve le plus souvent les personnalités les plus connues de chaque formation.
Oui, Marine Le Pen n'a pas attendu pour confirmer sa présence sur la liste de Jordan Bardella. Elle l'a fait dès le lancement de campagne du RN.
J'accepte avec enthousiasme de t'accompagner en clôturant symboliquement la liste que tu mèneras, j'en suis convaincue, à la victoire.
Même présence symbolique en position non éligible de Jean-Luc Mélenchon sur la liste LFI de Manon Aubry.
Jean-Luc Mélenchon qui sera en 80e position, un peu pour pousser et donner de la force à cette liste.
De la force, de la visibilité le jour du vote et pendant la campagne, les écologistes valident la pratique avec 3 anciens candidats à la présidentielle en fin de liste, Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère. Le camp macroniste, lui, réfléchit à mettre en queue de peloton les alliés Horizon et Modem, Édouard Philippe et François Bayrou.
Je pense que c'est une connerie.
Une idée qui n'emballe pas, donc, le secrétaire général adjoint du Modem, Richard Ramos.
C'est une jupitérisation, encore une fois, des élections. C'est dans la même veine qu'on a reproché au président de la République, à juste titre, d'être Jupiter, que je reproche, moi, à Gabriel Attal de répondre à toutes les questions au gouvernement en pensant que ses ministres et ses secrétaires d'État sont des pimpins qui ne savent pas répondre. Et là, on dit aux têtes de liste jeunes et notamment femmes, ben vous êtes des pimpins, on va mettre des vieux pour répondre à votre place. Je ne dis pas que François Bayrou ou Édouard Philippe ne jouera pas un rôle, notamment à la présidentielle. Mais on peut pas les sortir du tiroir à chaque élection. Ça, c'est pas possible.
Et c'est pourtant ce qui se dessine. Les deux partenaires n'ayant à ce stade, en tout cas, pas dit non. Façon de s'associer pleinement, plaident ceux qui approuvent. Quand les anti n'y voient pas autre chose qu'une volonté présidentielle de mieux partager la défaite qui se profile.
Merci, Rosalie Lafarge. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Perturbé et pluvieux au nord, calme ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.